BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est la bourse à l'état pur, à l'état brut et sans additifs. Tous les ingrédients de BFM Bourse sont naturels et c'est chaque jour jusqu'à 18h. Il est là en fil rouge, Antoine Larry-Gaudry. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre beau du jour.
Tension toujours avec un CAC 40 qui reste dans le rouge pour cette fin de séance. Moins 0,07%, 8238 points. L'Euronext Tech Leaders recule beaucoup plus lourd, moins 1,5%. Et puis du moins 1,9% pour le Nasdaq. Le Dow Jones, moins 0,21%. Le rapport américain sur l'emploi a été bien, bien meilleur qu'attendu. Et du coup, on regarde le nouveau président de la Fed en disant « Non mais tu vas vraiment baisser les taux là ?» On est à 4,53 sur le 10 ans américain désormais. 3,68 pour la dette française 10 ans et 3,03 pour la dette allemande. Les tensions sont un petit peu contagieuses. Et puis le Bitcoin dont on parlait là depuis le début de l'après-midi avec cette nouvelle grosse phase de correction, là il semble qu'il y ait un petit support du côté des 60 300 dollars qui a permis au Bitcoin de rebondir un petit peu. On est à 60 907, mais enfin la tendance reste éminemment fragile. On perd quasiment 20 000 dollars en une semaine.
Oui, oui, c'est incroyable. Bitcoin souffre vraiment beaucoup. Alors il en a vu d'autres, hein. Mais sur le Bitcoin c'est hyper volatile, mais on est toujours très très impressionné quand même. Le marché action, donc on le disait, est en mode pause après ce très bon rapport sur l'emploi au mois de mai aux États-Unis. On va le détailler bien sûr, signe de cette résilience toujours de l'économie américaine. Et puis à une semaine de l'introduction en bourse de SpaceX, on va beaucoup en parler parce que c'est un milestone, vraiment un moment important pour les marchés qu'on aime ou qu'on n'aime pas, SpaceX, Elon Musk, qu'on s'intéresse ou qu'on ne s'intéresse pas à l'espace. L'ampleur et les proportions, les conditions aussi de cette introduction en bourse sont une nouveauté pour les marchés et qui fera date. C'est un moment historique, peut-être une nouvelle mythologie de marché aussi qui est en train de s'ouvrir. Le problème, c'est que la mystique en bourse, ça ne marche pas toujours. Alors voilà, on va essayer de faire l'écart, la part entre ce qui relève des règles de marché traditionnelles, des règles de l'investissement, du bon investissement et du rêve. Est-ce que le rêve peut être un bon investissement? Dans un instant, on parlera aussi des valeurs européennes, celles qu'il faut privilégier pour la suite. Pourquoi pas, ce sera à partir de 17h35, le portefeuille idéal avec nos experts, bien sûr, juste après la clôture. BFM Bourse sur toutes les batailles de marché et BFM Business au cœur de l'ensemble de l'actualité. Et notamment, tiens, l'actualité syndicale aujourd'hui. Sophie Binet est reconduite à la tête de la CGT. Sophie Binet entend faire peser son syndicat dans le débat présidentiel. À noter à l'agenda de la CGT, une grève des cheminots mercredi prochain et une semaine d'action sur les salaires, ce sera à partir du 22 juin. Une centaine de maires et de parlementaires du Sud-Ouest réclament à l'État un abandon immédiat de la nouvelle ligne prévue entre Bordeaux, Toulouse et Dax, la nouvelle LGV, ligne grande vitesse. Ces signataires, donc une centaine de maires et de parlementaires de cette tribune, jugent le financement irréaliste. Ils défendent à la place la rénovation du réseau existant. Ce projet de LGV doit relier Paris à Toulouse en 3h10 d'ici à 2032, également accélérer la liaison entre Paris et Dax et le Pays Basque avec Bayonne. Et puis le groupe agroalimentaire Avril et d'État, coactionnaire d'Eurolysine, depuis sa reprise en 2024, vont réinvestir dans Eurolysine entre 50 et 100 millions d'euros. Eurolysine, c'est le dernier fabricant européen de lysine, un acide aminé essentiel pour l'alimentation des animaux d'élevage. Symbole de la souveraineté agro-industrielle française, son usine de 360 salariés est la seule en Europe, la seule à assurer ses productions. Mais elle souffre, elle aussi, de la concurrence chinoise. Plus de détails tout à l'heure. Et Mathieu Jolivet, ses experts, dans les Experts sans frontières, à partir de 18h. D'ici là, on est à vos côtés. C'est BFM Bourse. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club viennent de nous rejoindre. À l'instant, ils viennent de s'installer confortablement, on l'espère. Confortable, Mabrouk ? Vous êtes bien là ?
Oui, toujours. Oui.
Vous êtes sous le filet d'air frais, je crois, à cette place-là.
Oui, c'est
vous
très
sentez,
agréable.
Hein, mais c'est bien, ça rafraîchit tout le studio vous êtes pile dessous. Mabrouk Chetouane avec nous donc pour Natixis IM. Laurent Chauder échappe à ce courant d'air frais. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir, mais très confortable aussi.
Oui, oui, je me doute, membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre ce soir. Le CAC 40, donc en petite baisse, presque une séance pour rien sur le CAC. À Wall Street, nette baisse en revanche. Le rapport sur l'emploi, on va démarrer par ça quand même, avant de parler de SpaceX et de la tech dans un instant. Le rapport sur l'emploi est meilleur qu'attendu, deux fois plus de création de postes qu'attendu aux États-Unis. C'est pas rien au mois de mai. Résultat, alors les actions reculent parce qu'on se dit c'est pas facile du coup de justifier une baisse de taux quand le marché de l'emploi va aussi bien. Comment vous regardez-vous ce rapport sur l'emploi, Mabrouk?
Bon, il témoigne finalement de la résilience, vous l'aviez indiqué dans votre introduction, de l'économie américaine, qui est pas vraiment une surprise. On a en tout cas nous toujours été finalement assez constructif, positif sur la solidité de l'économie américaine. C'est vrai que ça surprend. Et ce qui surprend par ailleurs, c'est que le passé a été révisé à la hausse. Alors là encore, faut mettre des guillemets, puisque quand on a finalement les chiffres définitifs, on va dire un an après, on s'aperçoit que l'économie américaine a détruit beaucoup plus d'emplois finalement qu'elle en a créé. Oui. Mais en tout cas, toujours est-il, ce que prend le marché, c'est de dire au fond, l'économie américaine dont effectivement on soupçonnait quelque part, enfin on s'inquiétait sur l'évolution conjoncturelle, bah finalement tout se passe bien. On a une économie qui est pas sous stéroïdes finalement, qui continue de progresser avec des tensions inflationnistes. Et finalement, en toile de fond, ce que ça nous dit que bah le prochain gouverneur, est-ce qu'il aura les coudées franches pour pouvoir délivrer des baisses de taux? Absolument pas. Ben même finalement, avant le rapport sur l'emploi, il n'y avait aucune baisse de taux qui était anticipée par le marché sur cette année 2026. Bien au contraire, on avait déjà les prémices des hausses de taux. Et donc, quelque part, ça vient conforter le marché que, globalement, il n'y aura pas de, comment dire, d'assouplissement monétaire, mais globalement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en a vraiment besoin aux États-Unis? La réponse est non, puisque fondamentalement, si l'économie crée des emplois, et si en plus de ça, il y a un autre chiffre également qui est important de souligner, le taux de chômage est complètement stable, mais surtout, c'est que la croissance des salaires, finalement, elle, reste sous contrôle.
Tout à fait, conforme aux attentes.
Légèrement en dessous même, finalement, sur la croissance des salaires. Et donc, on a finalement le meilleur des mondes, en quelque sorte. Ah. Une économie américaine qui produit de l'emploi, qui continue de créer des jobs, avec finalement une croissance des salaires qui est généralement, qui nourrit cette inflation sous-jacente que tout le monde, finalement, en tout cas les banquiers centraux, regardent de manière bien évidemment attentive. Eh bien, tout est sous contrôle. J'ai presque envie de dire, bah, comme d'habitude, c'est imperfect, encore une fois, pour l'économie américaine, qui va finalement, bon, bah, le marché action corrige, tout simplement parce qu'on a un peu plus de restrictions monétaire finalement dans les tuyaux qui va arriver d'ici peut-être la fin de l'année. Oui. Mais attendez, il y a quand même un point très important, c'est que on a quand même les midterm elections, globalement les élections de mi-mandat qui constituent finalement là encore un rendez-vous extrêmement important. Et la condition, enfin la grande question, c'est est-ce que Kevin Warsh va resserrer les taux avant, en fait, finalement avant les midterm. Globalement, et c'est pour ça que fondamentalement le marché surréagit peut-être un peu à cette news, il y aura pas de restrictions, il y a pas de resserrement monétaire avant finalement le mois de novembre. C'est assez improbable, nous semble-t-il.
172 000 créations de postes, on est proche des 200 000 toujours, hein, au mois de mai aux États-Unis, malgré le fait qu'on vient de niveaux quand même très hauts aussi, malgré la guerre en Iran, malgré un certain nombre de vents contraires. On disait l'IA va détruire des postes, peut-être qu'elle en détruit dans certains secteurs, mais globalement la dynamique de l'emploi reste hyper résiliente.
Elle reste résiliente et il y a quelque chose qui est un peu passé aussi, on va dire, sous les écrans radars et qu'on regardait par ailleurs, et qui était une des thématiques de campagne de Donald Trump, c'était bien évidemment la politique migratoire, oui, qui a fait beaucoup de mal finalement au marché du travail américain, puisque finalement on est dans une situation pas plus tard finalement qu'en début de cette année, ou avec dans une situation un peu d'équilibre précaire sur le marché du travail, avec pas beaucoup d'embauches et pas beaucoup de licenciements finalement. Donc on avait un marché du travail qui était, on va dire, gelé un peu aux États-Unis, ce qui est assez inhabituel par ailleurs. Est-ce qu'il finalement faisait écho en quelque sorte à cette politique migratoire qui empêchait finalement ce flux finalement alimentant le marché du travail américain. Mmh, mmh. Quand on regarde les statistiques les plus récentes, enfin les dernières données qu'on dispose, on voit bien que cette immigration, en fait, en réalité, elle est repartie. La part de la population finalement étrangère dans la population américaine est en train de repartir.
Tiens.
Donc alors, oui, bien sûr. Donc, oui. Ça, effectivement, on commence à le constater.
Parce que l'ICE commence à un peu plus faire attention à ce qu'elle fait.
Parce que Trump, en fait, a tout faux sur l'ensemble de ses dossiers. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous regardez les tarifs douaniers, on est en train de revenir. Donc, en gros, même le 10% de tarifs douaniers, bah, en fait, on est déjà en dessous, à cause, effectivement, des effets de la Cour suprême, à cause, effectivement, de tout un tas d'effets par ailleurs. Quand on regarde également les tarifs douaniers qui étaient censés réindustrialiser, finalement, les États-Unis, bah, en fait, ça marche pas. Donc, le poids, effectivement, du secteur manufacturier continue, finalement, de se dégrader de manière légère. De manière graduelle. Et surtout, le point le plus important, c'est est-ce que ces tarifs douaniers ont restauré finalement la balance commerciale américaine? Pas du tout. Ça a surtout, en fait, bénéficié à l'économie chinoise et surtout finalement à la balance commerciale chinoise qui n'a jamais été aussi excédentaire. Donc globalement, finalement, bah, on revient sur l'économie américaine telle qu'elle était avant finalement Trump.
Oui, un regard là-dessus, Laurent. On voit que la réaction des marchés cet après-midi quand même. Le Nasdaq recule de 2%. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu perdre 2%. Puis le S&P perd 1,1%. Antoine.
D'ailleurs, Donald Trump sur Truth Social se peste en disant mais c'est pas possible. Les marchés devraient grimper avec un rapport sur l'emploi aussi bon.
Il a pas compris comment ça fonctionnait.
Oui, j'ai l'impression que ça, le temps que ça fasse croui.
Laurent.
Non, je suis d'accord. Les chiffres de l'emploi sont bons. Oui. L'économie américaine se tient bien. Nous, de manière générale, on est relativement prudent quand même, en général sur l'économie. Un, parce que ce qui nous ennuie un petit peu, c'est que dans la construction de la croissance américaine, quand on regarde nos travaux, on a l'impression qu'il y a une grosse partie qui vient quand même de l'IA. Et on a un sujet là-dessus sur à quel point l'IA peut encore accélérer. On pense plutôt que c'est le contraire qui va se passer. Et puis quand même, plus le détroit d'Hormuz reste bloqué, plus la probabilité que l'économie se ralentisse augmente. Et donc on salue ces bons chiffres. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer forcément notre positionnement qui est un petit peu plus prudent qu'il ne l'était en début d'année concernant l'économie.
J'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Nous pensons que l'IA va arrêter d'accélérer. Vous venez de dire ça. Vous l'avez dit vite, mais c'est ça.
Il faut utiliser les bons mots, mais oui. En fait, ce qu'on pense, en tout cas nos travaux, c'est que l'engouement de l'IA très fort depuis plusieurs mois, à notre avis, la cause principale, c'est les révisions massives d'estimation de CAPEX. De dépenses, d'investissement. Et un chiffre, pour avoir ça en tête, c'est que si vous prenez les 5 gros hyperscalers, donc Amazon, Microsoft, Meta, Oracle et Alphabet, et vous regardez ce que les gens attendaient l'année dernière, début d'année dernière. Ils se disaient, en 2026, ces gens-là vont dépenser 320 milliards de dollars d'investissement en 2026. Mmh. Finalement, ça va être 800 milliards. C'est quasiment x3. On s'est trompé de x3 dans l'estimation. Oui. Pareil pour 2027 et 2028. Et nous, notre point, c'est que ça, c'est derrière nous. On va plus pouvoir refaire la même surprise parce que quand vous regardez, l'équation financière se dégrade. Ces investissements engloutissent leur cash flow. Donc, il n'y a plus de génération de cash flow à partir de cette année quasiment. Donc, ils vont devoir soit emprunter plus, soit augmentation de capital. On l'a vu avec Alphabet lundi, Anthropic qui va se lister, etc. Donc, la croissance va devenir dilutive pour l'actionnaire. C'est un changement un peu de paradigme là-dessus.
Oui, et au point que du coup, il y aura peut-être plus de levée de capitaux à travers les actions que de rachats d'actions. Les rachats d'actions qui ont fait le bonheur des actionnaires ces dernières années, là, on risque d'en avoir un peu moins avec tous ces besoins d'investissement.
Alors, c'est complètement notre calcul. Nous, on calcule que sur les dernières années, grâce aux rachats d'actions, vous aviez en fait un nombre d'actions en circulation qui diminuait dans l'écosystème de l'IA et il augmente à partir de cette année.
Ah oui, et on est dans une nouvelle phase amenée à durer de réaugmentation du nombre d'actions. Ça compte énormément. Et quand il y a plus d'offres, la valeur parfois baisse. Ouais.
Et si vous voulez pas augmenter les actions, vous pouvez, mais à ce moment-là, il va falloir faire de la dette. Et la dette, compte tenu des montants d'investissement, vous pouvez vite représenter 20-30% des émissions nouvelles sur le marché obligataire investment grade. Et ça devient très très important en termes de risque de concentration.
Donc je vous écoute, je me dis comme ça, la tech est à son top là en bourse. Elle n'ira pas beaucoup plus haut, voire elle pourrait redescendre beaucoup plus bas ou...
En tout cas, c'est les raisons pour lesquelles on n'investit pas nous sur l'IA dans nos
actuellement
portefeuilles.
Ouais. Vous prenez pas cet ascenseur-là, quoi. Vous en avez pris d'autres par le passé, mais celui-là. Non,
exactement. Et surtout qu'on trouve à côté, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas embêté de pas être sur l'IA, c'est que l'IA et l'engouement assèchent des secteurs entiers, des pans entiers de l'économie à côté. Et donc, il y a des industries en Europe, des secteurs où vous pouvez acheter des entreprises de qualité qui n'ont jamais été aussi peu chères en 10 ou 15 ans. Donc, on fait notre marché là-dedans et on est patient le temps que cette dynamique s'altère un peu.
Mabrouk, votre regard sur tout ça, on parlera plus spécifiquement SpaceX dans un instant, mais c'est un thème à lui tout seul, SpaceX. Mais sur la tech, les niveaux de la tech et le fait que, ça y est, on est au climax, là, et on pourra pas espérer beaucoup plus, qui ira plus loin en bourse, relèvera peut-être de la bulle et de l'euphorie, en l'occurrence. Est-ce que vous avez cette idée en tête, vous aussi?
C'est pas tout à fait notre analyse, dans la mesure où on pense plutôt le contraire, en fait, en réalité. Dans la mesure où, à chaque fois qu'on bat des records, ou à chaque fois, finalement, qu'on commence à voir des valorisations remonter, la sempiternelle thématique, finalement, de la bulle revient. Bon, premièrement, nous, on sait pas détecter une bulle. Globalement, ça, on sait pas faire. Et malgré tous les outils quantitatifs qu'on utilise, on sait malheureusement toujours pas préciser à quel moment, finalement, dans une situation d'exagération.
Et puis, les bulles dans un portefeuille, mieux vaut les prendre que les rater.
Généralement, en plus, aux États-Unis, les bulles ont parfois ce côté un peu, on va dire, salvateur, c'est qu'elles vous permettent, en plus, d'en remettre un peu. Donc, pour essayer de regagner un peu ce momentum. Mais ayant dit cela, fondamentalement, quand on regarde la valorisation du Nasdaq, alors effectivement, donc, c'est une manière de regarder le secteur technologique, eh bien, fondamentalement, il y a pas véritablement d'exagération à ce stade. C'est un secteur qui produit par ailleurs du revenu, contrairement effectivement aux autres épisodes de valorisation élevée. Et puis, ce procès qui consiste à dire à chaque fois trop de capex, si on fait un peu un exercice de pensée en disant mais s'il n'y a pas de capex, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, il ne va jamais rien se passer, puis donc il n'y aura pas de revenu. Et là, effectivement, c'est la dégringolade. Donc, à un moment donné, quand on est dans une situation de monopole, on doit continuer d'investir. C'est un secteur qui est extrêmement intensif en capital. Et donc, à un moment donné, si on ne continue pas, si on ne maintient pas cet effort d'investissement, alors, il y a sans doute peut-être un peu d'exagération. Le chiffre, effectivement, de 800 milliards, c'est quasiment, effectivement, par rapport à ce qui était déjà investi l'an dernier, on dit à peu près autour de 400 milliards, c'est quasiment du x2. Et tout le monde déjà anticipait que c'était déjà beaucoup l'an dernier, qu'on aurait beaucoup de mal à maintenir un tel niveau. bon, effectivement, ça va encore plus vite.
Mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. On n'aura pas toujours une dérivée seconde positive comme ça.
On ne peut pas avoir effectivement cette dérivée seconde en fait qui continue d'augmenter.
Qui tire le marché vers le haut, voilà. Et quand on l'aura plus, qu'on va perdre l'essentiel en fait de ce qui tire le marché vers le haut. Qu'est-ce qui se passera
en fait quand on aura effectué les investissements, il y aura sans doute soit une diffusion vers l'économie en fait, vers une économie beaucoup plus productive, beaucoup plus puissante. Et en fait, c'est le même problème à chaque fois. C'est the winner takes all, c'est-à-dire qu'en gros celui qui aura réussi à passer ce virage de l'IA et à convertir finalement, on va dire, son économie à cette nouvelle technologie, eh bien, globalement, il va rafler la mise. Et en fait, quelles sont les économies qui sont extrêmement, en avance, en fait, sur ces thématiques-là? Il y en a deux, c'est la Chine et les États-Unis. Et le problème, c'est que globalement, ça attire finalement les regards et ainsi que les capitaux finalement sur ces deux économies, sur ces deux secteurs en particulier. Certes, de la concentration, il y en a, et on le voit à travers les valorisations, notamment les marchés en Asie émergente, enfin émergente entre guillemets, donc la Corée du Sud n'est pas vraiment un pays émergent, bien sûr, mais quand on regarde effectivement ce qui se passe à Taïwan, ce qui se passe en Corée, c'est le reflet tout simplement d'une demande, encore une fois, extrêmement solide et d'une capacité finalement à produire qui est limitée, expliquant effectivement l'augmentation des marges et donc des profits.
Oui, il y a une logique, mais à un moment, il faudra être hyper agile et sortir de ces acteurs-là. Par exemple, est-ce qu'on n'a pas déjà vécu ça avec les 7 magnifiques? Parce que franchement, depuis début 2025, 5 des 7 magnifiques font moins bien que le S&P. Plus rien de magnifique en termes de performance. Depuis le début 2025, 5 des 7 magnifiques font moins bien que le S&P, à part Nvidia et Alphabet. Donc on voit que ça s'est diffusé ailleurs, la hausse. Maintenant, la hausse, c'est les semi-conducteurs. Et on voit que ça commence à se diffuser encore au-delà, avec les microprocesseurs maintenant, avec les agents d'IA, on voit les microprocesseurs à leur tour prendre la hausse. On a même vu Valeo dans les équipementiers auto l'autre jour progresser. C'est ça,
et
vous
même
voyez,
dans l'industrie,
c'est ça que vous imaginez se poursuivre ricochet par ricochet et tenir le marché, même si les 7 magnifiques font plus rien et qu'ensuite les semi-conducteurs font plus rien. Il y aura toujours un autre secteur qui prendra le relais et qui sera assez gros en bourse pour porter la hausse encore sur les indices.
Alors je suis pas expert effectivement et je pense que ça va être mieux renseigné finalement que ma réponse. Mais globalement, ce que je dis, c'est que ces progrès techniques, enfin cette nouvelle technologie va se diffuser. Vous citiez effectivement certains secteurs, on pense au secteur industriel. Globalement, ça aussi, on peut en parler. Il y a beaucoup finalement de secteurs dans le secteur industriel, beaucoup d'acteurs qui vont bénéficier effectivement de toute cette
Mais ils pèsent plus rien dans les indices, ces acteurs-là. Donc ça fera plus monter les indices.
Mais c'est cyclique, entre guillemets. S'ils pesaient plus rien effectivement aujourd'hui.
Les banques l'an dernier, elles ont cartonné en Europe. Est-ce que les indices en ont énormément profité?
En Europe, bien sûr que oui, non. Quand même. Si vous n'étiez pas sur les banques l'an dernier, c'était quand même compliqué.
Non, mais d'accord, mais ça faisait pas un indice CAC 40 rayonnant face au reste du monde, quoi. C'est pas parce que Société Générale a progressé qu'on a rayonné face à Wall Street. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le poids dans les indices, quoi.
Vous prenez un exemple particulier pour en faire une généralité.
Vous dites tous les secteurs en retard, certains secteurs en retard profiteront de l'IA et à leur tour gagneront 40-50%. Tant mieux pour eux. Faut peut-être s'y positionner. Mais est-ce que les indices globaux en profiteront?
Je ne m'inscris pas sur un temps court, en fait. C'est ça, en fait, le point en particulier, c'est que si on veut voir ces effets de diffusion se manifester, ça va s'inscrire sur le temps long. Et le temps long, c'est le temps des marchés actions. Donc, on ne peut pas effectivement demander aux marchés actions, du jour au lendemain, de délivrer des performances stellaires.
Laurent, qui a gagné là? C'est lui ou moi?
Non, je plaisante. Je partage un peu l'avis de la prudence. Parce qu'il y a un autre sujet, on parlait un peu des investissements qui sont nécessaires, c'est vrai. Mais nous, dans nos analyses, en fait, on calcule qu'entre maintenant et 2030, ils vont dépenser à peu près 6 trillions de dollars pour construire à peu près 100 gigawatts supplémentaires d'énergie. Et 6 trillions, quand vous réfléchissez à dire, je veux 10% de retour sur investissement sur ces 6 trillions, 10% c'est correct, c'est 3 trillions de chiffre d'affaires nécessaires, de dollars. Et 3 trillions de dollars, pour vous donner une idée, c'est l'ensemble du budget IT mondial, logiciel et IT service, en 5 ans. Donc, vous voyez que c'est quand même des gros chiffres, et peut-être qu'ils les délivreront, mais nous, on investit avec une marge de sécurité, et on pense que la marge n'est pas forcément là aujourd'hui. Voilà un petit peu sur la partie investissement. Et il ne faut pas oublier une autre chose, et on le voit de plus en plus, c'est qu'il y a des goulets d'étranglement sur les commandes. Par exemple, un transformateur haute tension, oui. Vous avez besoin. C'était 2-3 ans, maintenant c'est 4-5 ans de commandes. C'est pareil pour le raccordement électrique au réseau. On est passé de 2-3 ans à 4-5 ans. Et donc maintenant, ils installent des centrales à gaz directement sur le data center. Mais même là-dessus, pour commander la turbine, on était avec un des fabricants de turbines la semaine dernière. Il nous dit, moi, mon carnet de commandes est rempli jusqu'à 2029. Il n'y a plus de commandes pour l'instant.
Puis ça corrobore ce que je dis.
Donc, oui, mais ça veut dire que quelque chose va lâcher. Soit ils livrent ce qu'ils ont dit, mais du coup, la rentabilité sera probablement pas là. Soit ils font un warning en disant, bah, finalement, je peux pas déployer mes capex pour l'instant, ça va être un peu plus long que prévu.
Oui, mais si on s'inscrit sur un temps encore plus long, si on déploie des capex, effectivement, un peu plus, de manière sur une période de temps un peu plus longue, au fond, c'est pas grave. Au fond, c'est vraiment pas le sujet. Donc, et moi, mon point consiste à dire, si ça se diffuse par ailleurs sur d'autres acteurs et à l'ensemble de l'économie, eh bien là, finalement, on est en train de retrouver un truc qu'on avait perdu, notamment en Europe. C'est une capacité, un potentiel de croissance qui sera nettement plus élevé. Et auquel cas, on peut pas s'en plaindre. Donc, finalement, cette histoire que finalement la tech initie quelque part une espèce de mouvement finalement haussier sur de l'investissement dans d'autres secteurs qui se propagent, ben en fait, c'est ce qu'on attend globalement. Globalement, c'est ce qu'a réalisé la puissance publique il y a plusieurs décennies de cela.
Mmh. Après, vous pouvez passer par les moments des trous d'air. Hein. La fibre a été déployée à partir de 97-98, je pense, et ça n'a pas empêché le Nasdaq de faire moins 60% sur la première année. Alors que, vous avez raison, l'usage Internet, 5-10 ans plus tard, a été exceptionnel. Donc, il y a parfois un décalage entre ce que price la bourse, dont le métier, c'est d'anticiper, et la réalité industrielle, c'est ça notre point en fait.
Absolument, et d'exagérer surtout certaines tendances.
Et la défense, c'est un bon exemple. Il y a 6 mois, personne ne pouvait vous entendre de dire « Ah ben non, Rheinmetall, c'est trop cher, il ne faut pas en acheter ». La thèse sur les budgets défense, tout le monde la connaît, tel pourcentage du PIB à atteindre, etc. Ça n'a pas empêché Rheinmetall, qui était la darling du marché, de perdre 40 ou 50%. Donc le problème, c'est que souvent les gens confondent croissance et rentabilité. La croissance n'est pas forcément rentable, c'est ça mon sujet. Et là, la croissance des capex ne sera pas forcément rentable. Absolument. Et donc elle n'est pas forcément créatrice de valeur. C'est là où il faut faire la différence.
Oui. Juste un mot sur Anthropique qui appelle le secteur les acteurs de l'intelligence artificielle à ralentir, les laboratoires de recherche à ralentir aussi leurs recherches, parce que dit Anthropique, on va arriver rapidement au moment où l'IA saura faire elle-même, apprendre d'elle-même, prendre elle-même des initiatives sans intervention humaine. Et là, dit Anthropique, qui est un acteur de tout cela quand même, qui prétend à une introduction en bourse, et là, on aura un problème sociétal. Quand on entend ça de la part d'un acteur qui veut s'introduire en bourse, on se dit quoi ? Faudra y aller sur Anthropique ou non, parce que même doute de... Ils sont bien, hein, ils sont forts sur l'IA, mais il y a comme un léger malaise chez eux malgré tout, face à tout ça. Ils ont participé à l'élaboration aussi de l'encyclique du nouveau pape. On voit qu'ils sont engagés pour réarmer l'humain face à l'IA quand même. C'est Anthropique qui, quelque part, alerte sur son propre business, quoi, tout en voulant le développer. C'est compliqué, là, cette position d'Anthropique. Comment vous regardez ça, Laurent ?
C'est assez schizophrène, en fait. Hein. Ils ne peuvent pas faire très différemment. Je pense qu'ils ont quand même un sujet, ça va être d'acceptance et d'acceptation de l'IA de manière générale, parce que si on vous dit toute la journée que l'IA va détruire tous les emplois, c'est sûr que ça ne va pas être facile pour le commun des mortels de se dire je vais contribuer au développement de l'IA dans mon entreprise, etc. Donc, ils sont obligés d'être un petit peu schizophrènes. Et après, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on déploie l'IA en interne, hein. Mais pour l'instant, ça ne nous a pas fait changer nos effectifs ou autres. Et on voit bien que le déploiement en interne est finalement pas si rapide que ça, parce que la fiabilité de l'IA, pour l'instant, n'est pas encore à 99,9%. Donc, vous ne pouvez pas changer vos process si vous avez 88-90% de taux de fiabilité, qui est le cas actuellement. Donc, à mon avis, on sera surpris négativement par la vitesse du déploiement de l'IA.
Ben voilà, deux rapports à l'IA, deux visions des choses, deux façons d'investir et de regarder l'avenir des marchés. On continue d'en parler ensemble. Dans 10 minutes, la clôture, on accélère là dans la dernière ligne droite de cette séance. Le CAC 40 perd 0,27%, 8221 points, avec les valeurs qui ont le plus progressé dans l'IA ou liées à l'IA ces derniers jours, qui respirent un petit peu, qui repartent à la baisse. STMicroelectronics perd 5,5%, par exemple, Schneider Electric perd 4%. À Wall Street, le Nasdaq vit une vraie séance de baisse. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu perdre plus de 2%. Là, il perd 2,2%, avec pour déclencheur aujourd'hui le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui est meilleur qu'attendu, ce qui va pas plaider pour des baisses de taux. Voilà, donc petite pression sur le marché obligataire qui fait baisser les valeurs de croissance et le Nasdaq au premier chef, donc moins 2,2%. On en parle ce soir avec Laurent Chauderge et Mabrouk Chetouane. Qui serait prêt à investir dans SpaceX du coup dans une semaine ? Dans une semaine, on suivra la cotation en direct dans BFM Bourse de SpaceX, journée spéciale vendredi prochain sur BFM. Mon petit doigt me dit d'ores et déjà qui sera prêt à investir et qui un peu moins. Vous serez prêt à investir un peu ou pas là, Mabrouk ?
Allez-y.
Non.
C'est pas moi l'expert.
Manifestement, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir.
Mais est-ce qu'on sera servi, en fait? C'est ça, le problème.
Est-ce qu'on sera servi déjà? Effectivement, nous, on n'est pas dans ce camp-là. Il y a trois sujets. Au-delà de l'investissement dans SpaceX, je trouve qu'il y a trois signaux très intéressants. Le premier, c'est la taille de l'opération. Bon, la capitalisation boursière, 1800 milliards, 70-75 milliards d'introduction. Hein. Il faut bien avoir en tête que 70-75 milliards, c'est quasiment deux fois la taille du marché annuel des introductions en bourse aux États-Unis sur les cinq dernières années. Donc c'est pas, et ça, on n'a pas encore fait Anthropic.
Combien de fois vous avez dit ?
Deux fois. Peu près. On n'a pas encore fait Anthropic, qui a été malin et qui a fait son annonce avant OpenAI. Mmh. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est, et on y reviendra peut-être en fin de séance, donc je ne vais pas spoiler la suite, c'est la valorisation. Et on y reviendra. Et le troisième sujet, mais qui est un sujet beaucoup plus sociétal, c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a très peu de façons de justifier cette valorisation. Donc, ce qu'il vous faut, c'est trouver des acheteurs qui sont insensibles au prix. Il y a deux types d'acheteurs qui sont insensibles au prix. Il y a le particulier, puisqu'il achète sur de l'histoire et sur du rêve, et lui-même ne va pas faire une valorisation d'entreprise. Et le deuxième acheteur insensible, c'est la gestion passive. Parce que, par définition, elle achète ce qui rentre dans l'indice indépendamment du prix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont changé les règles de telle façon à ce que SpaceX puisse rentrer dans le Nasdaq 100 au bout de 15 jours, oui, au lieu d'au bout de 6 mois. Donc, il y a une vraie distorsion des règles historiques. Et ça n'aurait pas pu être le cas en 2000, parce qu'à l'époque, la gestion passive n'existait quasiment pas.
Les ETF font disparaître les enjeux de valorisation.
Exactement.
En tout cas, les valorisations sont explosées par les ETF, effectivement.
Donc, le mécanisme même du marché boursier dans sa genèse, qui est la découverte du juste prix, c'est un bon exemple qu'il est en train de devenir un peu dysfonctionnel avec la gestion passive, qui, quand elle repentait 15%, c'était pas grave. Là, maintenant, c'est plus de la moitié des encours en gestion collective aux États-Unis.
Oui, mais alors, le Nasdaq a choisi de l'intégrer à son indice en faisant exploser ses règles habituelles parce qu'ils veulent absolument avoir SpaceX. Au bout de 15 jours, SpaceX sera au Nasdaq. En revanche, le S&P a fait le choix inverse. Ils ont annoncé que SpaceX, ne dérogera pas aux règles habituelles. Il faut 4 trimestres consécutifs de rentabilité, ce qui n'est pas le cas de SpaceX, pour prétendre au S&P 500. Et donc, non, pas de SpaceX ou S&P 500 à l'IPO, et pas avant 12 mois annoncé le S&P. Donc là, on a deux façons de communiquer, mais aussi deux choix stratégiques indiciels très différents. Le Nasdaq d'un côté, qui change ses règles pour SpaceX, et puis le S&P qui, au contraire, joue les commandeurs, quoi, quelque part, Mabrouk.
Oh ben c'est un peu la, comment dire, c'est l'ancrage, un peu, le S&P. Hein, donc, on va dire que le Nasdaq, c'est le Far West, et puis le S&P, bon, là, on parle quand même de choses assez solidement ancrées. Non, effectivement, la question de la, comment dire, de la valorisation fait débat. Donc, et le marché a toujours tendance, entre guillemets, encore une fois, à exagérer, on va dire, certaines valorisations. On a aujourd'hui, finalement, une demande qui est très nettement supérieure finalement à l'offre. Je parlais effectivement de est-ce qu'on sera correctement, est-ce qu'on sera déjà servi, et cette sursouscription quelque part, et ça fait penser à ce que au commentaire que vous faisiez, donc à un bien de Giffen, c'est un bien de luxe en fait aujourd'hui quasiment, puisque aller chercher des actions indépendamment finalement d'une trajectoire quelconque de bénéfices, indépendamment même de la valorisation, et sans faire et en faisant abstraction de tout ça, est-ce que c'est bien raisonnable. Les autres, effectivement, grandes entreprises du secteur technologique, on les connaît. Effectivement, elles sont pas nouvelles. On les a installées depuis assez longtemps. Et elles ont quelque part fait leurs preuves. Là, effectivement, bon, bah, c'est sur la personne d'Elon Musk.
Vous trouvez que Tesla a fait ses preuves? Enfin, oui, ils ont fait leurs preuves, bien sûr. Mais enfin, la valorisation, quand même, est stratosphérique.
Non, mais d'accord. Mais ça, bien sûr. Mais oui. C'est pas une entreprise, entre guillemets, qui est, on va dire, inconnue au bataillon. Là, on parle d'une entreprise qui a encore des projets dont on peut encore questionner la faisabilité.
SpaceX, attendez. Goldman Sachs, alors ils sont jugés partis là-dedans parce qu'ils accompagnent l'introduction en bourse, mais Goldman Sachs estime que les revenus de SpaceX liés à l'IA, parce que c'est aussi lié à SpaceX, ses revenus passeront de 3,2 milliards de dollars en 2025 à 322 d'ici 2030. Multiplication par 100 en 3 ans.
Mais on n'a jamais réussi à refaire les calculs de Goldman Sachs. Même un simple calcul de corrélation, c'est compliqué avec eux. Donc, à un moment donné, on questionne la méthode et comme vous dites, effectivement, ils sont jugés partis. Peut effectivement discuter jusqu'à demain, finalement, du bien fondé de ce calcul. Faut être à un moment donné raisonnable.
Goldman Sachs qui a installé une fusée dans son hall d'accueil justement pour faire la promotion de l'introduction en bourse de SpaceX, qui les accompagne. Donc leur hall d'accueil au siège social de Goldman Sachs, il y a une grande fusée SpaceX. Morgan Stanley à New York, à son siège social de New York, a mis ses ascenseurs et ses tourniquets Morgan Stanley aux couleurs de SpaceX aussi. C'est pas fini, hein. Il y en a d'autres. Bank of America a transformé son immeuble à New York en grande rampe de lancement de fusée. La nuit, en fait, il y a de grands projecteurs et des effets visuels qui font confondre le siège de Bank of America avec une rampe de lancement de fusée. Il faut faire la promotion d'une introduction en bourse de cette taille. Hein. Quand on est une banque qui accompagne ça, il faut.
Vous avez 70 milliards à placer, ouais. Donc c'est sûr.
Mais Antoine, vous nous disiez tout à l'heure sur ces banques, en plus, Elon Musk leur a demandé un petit rabais, donc du coup, c'est peut-être une forme de monnaie
d'échange. Il n'a pas demandé de rabais, il s'est engagé à ce qu'il arrive à des frais de mise en bourse les plus bas possibles.
C'est ça.
Sans doute avec l'effet de masse, hein, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, ouais, il y a une forme de confrontation avec avec Elon Musk là-dessus. Après, on peut mettre des fusées dans son hall d'entrée, ça coûte rien, et puis ça fait venir du client potentiel, mais ça risque d'être un combat assez musclé.
Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un ETF sur la fortune d'Elon Musk aussi après l'IPO? Hein, mais la fortune nette d'Elon Musk après l'IPO représentera 3% du PIB américain, l'équivalent du PIB de 125 pays à lui tout seul. 3% du PIB américain, ça correspond à la situation de Rockefeller en 1913. Et là, c'est une personne, c'est Elon Musk. Bon. Et pourquoi pas? On est dans l'époque du pourquoi pas?
Écoutez, hein, les records sont faits pour être battus.
Oui, oui.
Bon, alors oui, on peut encore discuter de la concentration des richesses qui, effectivement, peut être problématique. Hein, donc, la problématique de la répartition de la richesse, c'est toujours le grand débat en économie. Est-ce qu'une personne qui concentre, on va dire, l'équivalent, quasiment l'équivalent du PIB de la Pologne, ça fait sens? Bon, bah, peut-être pas. Donc, bon, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Bon, peut-être pas non plus. Donc, est-ce que la question mérite d'être posée, je ne sais pas.
Mais qui devra le plus se justifier dans une semaine? Le gérant qui choisit, l'investisseur qui choisit de ne pas acheter SpaceX, ou au contraire celui qui choisit d'avoir SpaceX en portefeuille? Lequel sera le plus mal à l'aise et devra justifier son choix?
L'avenir nous le dira.
Oui, bah, d'accord. Bon.
Je pense que quand vous gérez de l'argent pour les autres, à la fin, ils vous le confient parce que vous avez une certaine méthode et une discipline d'investissement. Donc, le plus important, c'est de rester... Enfin, c'est mon sens, hein, on fait ça depuis 20 ans. Et ce qui nous a le mieux servi, c'est de rester fidèle à ce qu'on a dit à nos clients et à nos disciplines. Et dans nos critères de discipline, SpaceX ne rentre pas.
L'Europe, vous renforcez l'Europe? Vous faites quoi avec l'Europe là? Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais on est là, nous aussi.
Ah non, on est essentiellement sur l'Europe. Hein, mais ce que je pouvais dire, c'est qu'au sein de l'Europe, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit des opportunités qu'on n'a pas vues depuis 10 ou 20 ans. Dans certains segments, dans des sociétés très rentables, mais qui sont un peu délaissées pour l'instant avec cette polarisation IA. Donc notamment, on a beaucoup augmenté la santé depuis 18 mois. On a aussi augmenté un petit peu la consommation courante. Donc dans la santé, c'est surtout des équipements médicaux, hein, des Philips, des Siemens Healthineers, de la dialyse avec Fresenius Medical Care. Dans la consommation courante, on a pris des participations dans certains brasseurs, dans des spiritueux, dans le parfum. Par exemple, et là on a des valorisations, je vous dis, on n'a pas vu ça depuis 2010.
Oui, et ces valorisations sont amenées à évoluer pour vous, il va y avoir des déclencheurs positifs.
Oui, parce qu'à un moment il y aura ce qu'on dit une rotation, et oui, le marché se réintéressera à ces valeurs. Et un bon exemple, parce que souvent les clients disent, ou les investisseurs disent, mais quel va être le catalyseur? Et je vous invite à regarder par exemple le secteur du tabac sur les 10 dernières années. En fait, vous avez une première partie qui est, vous vous souvenez, la partie où il y a de l'ESG qui monte en puissance. Donc, ce secteur ne fait que baisser. Il perd 50 ou 60%. Et la valorisation de ce secteur devient très faible. Il atteint 7, 8 fois les bénéfices. Et puis, finalement, il y a quand même du dividende, il y a du rachat d'actions. Et puis, finalement, il y a un petit peu de croissance. Et vous regardez, les titres commencent à rebondir et le marché, le secteur du tabac, une des meilleures performances sur les 4 dernières années de plein de secteurs. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment...
Malgré l'ESG, en plus.
Oui. Quand vous achetez des entreprises avec des bonnes positions concurrentielles, il y a un moment, si la valorisation devient trop faible, il se passera des choses. Soit le management se fera débarquer, il y aura une nouvelle stratégie, soit ils feront un dividende spécial, soit ils se feront racheter. Oui. Sur les 12 derniers mois, on a eu 4 sociétés dans le portefeuille qui se sont fait racheter.
Ah oui. Et on voit effectivement le retour des mal-aimés aussi à travers Dassault Systèmes, par exemple.
Voilà, il y a une vraie histoire aussi industrielle quand même, donc,
oui,
sur Dassault. Donc, mais bon.
Non, c'est intéressant, c'est juste un autre segment, le troisième segment sur lequel on a investi depuis 12 mois, depuis 6 mois, c'est notamment certaines sociétés, pas Dassault Systèmes mais d'autres, exposées au secteur des logiciels qui avait beaucoup baissé.
Messieurs, dans un instant la clôture, on a été un peu long, du coup on fera un peu plus court sur la data room, si vous le voulez bien, vous aurez 30 secondes chacun. On entre dans la data room. Donc pour livrer une data forte à nos auditeurs et téléspectateurs. C'est important avant le week-end parce que beaucoup justement partagent les data que nos experts viennent livrer ici avec leurs amis, leur famille tout au long du week-end. Ça permet de briller. Quand la data est forte, importante, bah, ça permet aussi soi-même de briller en parlant autour de soi. Donc vous avez la réputation de nos auditeurs et téléspectateurs auprès de leur famille ou de leurs amis en main. Attention.
Votre week-end est week-end importante, hein, manifestement.
Oui, oui. Alors Mabrouk, on va voir si vous ferez briller nos auditeurs. Et dites-le nous hein, en commentaire aussi. Voilà. Mabrouk, votre chiffre, 2000 tonnes.
2000 tonnes, c'est la quantité en fait de câbles qu'il faut utiliser pour pouvoir relier un data center à un réseau électrique de 400 000 volts, donc sur simplement une distance de 10 km. C'est-à-dire que si votre data center est simplement distant de la première ligne à haute tension de 10 km, il faut 2000 tonnes de câbles. Et quand on voit qu'effectivement, la quantité de data centers, ne serait-ce qu'en France, effectivement, va être amenée à augmenter, RTE, on en parlait tout à l'heure, l'entreprise responsable du transport électrique projette effectivement une augmentation de multiplication par 3 de la quantité d'électricité qui va être à transporter pour justement alimenter ces data centers. Et donc, ça vous laisse une idée, une marge de la quantité de câbles qu'il va falloir mettre en place, d'où effectivement le col industriel.
2000 tonnes rien que pour une distance de 10 km.
10 km.
Wow, impressionnant, effectivement. Ah, c'est une belle data. On peut briller avec ça. Je pense qu'on peut briller avec cette data. À vous, Laurent, votre chiffre ce soir, 94.
94, c'est 94 fois le chiffre d'affaires de SpaceX, qui est la valorisation d'introduction en bourse. Et pour le mettre en perspective, la plus grande bulle de valorisation historique, c'est la bulle TMT de mars 2000. Si vous prenez les équivalents de SpaceX à l'époque, Cisco, Qualcomm, Lucent, Nortel, donc vous étiez à peu près à 20-25 fois le chiffre d'affaires. Bon, donc vous êtes 4 fois plus cher que le plus cher des 100 dernières années avant que le Nasdaq s'écroule de 60%. Ça vous donne une idée de ce que vous voulez faire ou pas en achetant SpaceX.
Pas mal aussi. Deux très belles datas avant le week-end. Vous pouvez retrouver en podcast et replay, sans aucun souci. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Mabrouk Chetouane, régulièrement à nos côtés, et Laurent Chauderge également, BDL Capital Management et Natixis ICM. Dans un instant, la clôture avec Antoine. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Et moins 0,32% pour le CAC 40 en clôture, 8 218 points. Les volumes d'échanges quand même relativement consistants à 3,8 milliards. À noter une baisse marquée pour le pouls de l'Euronext Tech Leader, ce qui a fait moins 1,9%. Moins 0,7% pour l'Eurostock 50, moins 0,75% pour le DAX à Francfort. On a Madrid qui a quand même largement surperformé tout le monde en gagnant 0,48%. Nous, à Paris, le CAC 40 a pu signer une baisse inférieure à celle du reste de l'Europe boursière, notamment grâce à notre secteur du luxe qui s'est bien réveillé. LVMH qui a gagné 1%, 479,05 €, et Hermès qui a pris 2,3%, plus forte hausse du CAC, 1 619 €. Et puis des secteurs un petit peu plus traditionnels, Carrefour plus 2, 16,30, Sanofi 1,98, 77,95, et Pernod Ricard plus 1,6 à 62,10, parce que ce qui a pesé évidemment, c'est l'ensemble du secteur des semi-conducteurs. STMicro a perdu 5,8% à 62,82 €. À noter que dans le SBF 120, c'est Soitec qui signe la deuxième plus forte baisse à moins 6,3%, 146,65 €. Un petit mot du Bitcoin. On est toujours sur le fil des 60 000 $. On avait rebondi sur un petit support du côté des 60 300, mais là, la mécanique baissière s'est réenclenchée. On est à 60 169, avec vraiment maintenant sous les 60 000 en ligne de mire.
Ouais, effectivement, décidément, Bitcoin compliqué cette semaine. Gilles Santacreux est avec nous, boursicoté.com. Gilles, pour le CAC, moins 0,3.
Bonsoir.
Franchement, toute petite baisse comparée à la chute de Wall Street ce soir.
Oui, on a bien limité les dégâts. Alors même le DAX, sur ces derniers jours, il a une phase baissière un peu plus forte. Donc ce matin, j'avais dit dans mon édito qu'il fallait dépasser 8300 points pour réenclencher une dynamique haussière. On a fait 8296 de mémoire, donc on l'a échappé de peu. On avait pourtant ouvert sur un gap haussier au-delà des 8250 points. Et puis, CNFP nous ont un petit peu plombé la séance. Donc effectivement, on relativise par rapport à ce qui se passe à Wall Street et notamment sur les crypto-monnaies, mais globalement on s'en sort plutôt bien et on termine une semaine assez correcte, mais on reste dans le range dans lequel on est depuis deux semaines.
On continue d'en parler ensemble, c'est BFM Bourse jusqu'à 18h. Notez que, alors Régis Béguet hier nous le disait, et c'est disponible encore en replay dans la data room d'hier, 60% des emplois actuels aux États-Unis, 60% d'entre eux n'existaient pas en 1940. Ça c'est fou quand même, ça montre à quel point un marché de l'emploi est en transformation permanente. 60% des emplois actuels n'existaient pas en 1940, et l'IA bien sûr va contribuer à accélérer ce mouvement-là, mais il n'est pas nouveau ce mouvement. Replay donc de cette data room d'hier qui marche très très bien, effectivement, toujours disponible le replay et à consulter tout au long du week-end sur notre application. Tout de suite, on vous apporte des pistes d'investissement supplémentaires.
BFM Bourse, on refait la séance.
Nos deux experts du club ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Pierre-David Quenu pour GSD Gestion. Bonsoir Pierre-David.
Bonsoir Guillaume.
Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Pierre-David.
Ah oui, ça faisait longtemps.
Ah oui, mais
je suis toujours là.
Vous êtes là.
Merci.
Bon pied, bon oeil. Et Julien Marion, bien sûr, régulièrement à nos côtés, bfmbourse.com. Bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Pierre-David, envie de vous retrouver tous les deux.
Ravi aussi, moins 0,3 ce soir, le CAC 40. Wall Street souffre après des chiffres de l'emploi supérieurs aux attentes. C'est bon, ça montre une vraie résilience du marché de l'emploi. Et ça ne va pas mener la Fed à baisser rapidement ses taux. Et c'est pour ça que Wall Street ce soir recule très nettement, moins 2,3%. Donc pour le Nasdaq, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle baisse pour le Nasdaq. Puisqu'on est sur la tech, quelle valeur tech européenne allez, quitte à investir dans la tech via l'Europe, parce qu'on voit que depuis le 1er janvier, on n'a pas à rougir de la tech américaine. Laquelle est-ce que vous préférez, vous ? Laquelle est-ce que vous privilégiez, Pierre-David ?
Alors nous, on aime bien SAP. Ah. SAP parce que en fait depuis le début de l'année elle souffre beaucoup, même déjà depuis allez une petite année elle souffre beaucoup, et en fait on voit que sa transformation et son positionnement avec notamment l'IA est en train d'arriver, et on pense que voilà cette pas du tout intégré dans les cours d'aujourd'hui. En fait, elle transforme son logiciel de gestion dans une plateforme intelligente pilotée grâce à des données de l'IA. Et en fait, comme elle a, en termes de clients, eh bien, elle a des clients aussi bien dans le monde de la finance que dans l'industrie et autres. Donc, elle a quand même un carnet. Enfin, elle a une base très solide. Et on est convaincu que ce nouveau positionnement est très favorable pour SAP.
SAP, vous l'aimez bien cette valeur, vous en parlez souvent d'ailleurs. Vous dites SAP comme
non,
un...
Non, SAP.
Vous dites SAP, voilà. Voilà. Voilà, une valeur tech européenne, pourquoi pas, qui a cartonné hier, qui a rebondi avec Capgemini ou encore Dassault Systèmes. Voilà, on est dans ces tech qui tentent de rebondir et dans lesquelles vous continuez de croire. ASML aussi, qui aura touché cette semaine, Julien, un plus haut historique. Alors, d'elle-même, mais surtout pour une valeur européenne. Jamais une valeur européenne n'avait capitalisé autant dans l'histoire qu'ASML cette semaine.
Plus de 670 milliards de dollars. Ils ont battu le précédent record qui a été établi par Novo Nordisk, qui depuis dégringole complètement. Alors, ce qui se passe avec ASML, on le sait, hein, s'ils font de la photolithographie, en gros, pour simplifier, ASML, c'est un acteur incontournable de la chaîne de valeur des semi-conducteurs à l'échelle mondiale. Ses principaux clients, c'est TSMC, c'est Samsung Electronics, c'est un des fondeurs de semi-conducteurs qui actuellement ont vraiment des croissances vertigineuses. Mmh. Enfin, il suffit de voir, en fait, les informations qu'il y a autour de Samsung Electronics, c'est le fait qu'ils ont accordé des primes alors faramineuses à leurs salariés qui travaillent dans la division de fonderie. Vous voyez donc qu'en fait la demande est importante. En fait, l'enjeu du côté de ASML, c'est pas la demande. C'est un peu comme chez Airbus, hein, quelque part. Les capacités de production et la capacité à monter en puissance sur les machines de dernière génération. Et sur ce dernier point, les analystes ont tendance à être assez optimistes sur la montée en puissance industrielle du groupe. Et on peut penser qu'il y a eu un léger trou d'air sur la valeur en fait au cours des derniers mois, justement en raison de ces craintes. Donc, c'est pas impossible de voir ASML grimper à 700, 800 milliards de dollars.
Et un jour peut-être les 1000 milliards, là, comme ça devient le nouveau. Les nouvelles licornes en bourse, les licornes, c'est 1 milliard. Hein, oui.
Après.
En bourse, le nouveau benchmark, c'est 1000 milliards. On espère un jour qu'ASML sera à 1000 milliards.
Après, quand vous regardez les dernières entreprises à avoir atteint les 1000 milliards de dollars en bourse, donc c'est Samsung Electronics et SK Hynix, hein, qui en fait sont exposées à ce qu'on appelle les puces mémoire, hein, notamment des mémoires vives, sur lesquelles il y a une pénurie. Or, il faut savoir que, à peu près, je crois que c'est UBS qui calcule ça, entre 30 et 35% des revenus d'ASML sont indirectement exposés aux puces mémoire.
Gilles, vous êtes toujours avec nous depuis Boursicoté.com. ASML, d'un point de vue technique, après son record de capitalisation cette semaine, est-ce que vous lui trouvez encore beaucoup de potentiel? Les 1000 milliards de dollars, là, est-ce que vous les voyez venir, Gilles?
Alors moi, je ne regarde pas la capitalisation, hein, je regarde vraiment la configuration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Julien le soulignait, on a eu une petite phase de temporisation depuis la fin du mois de janvier. Et puis là, depuis le début du mois de mai, eh bien, on a réenclenché un nouveau mouvement haussier. Donc, on a des nouveaux plus hauts. Là, on s'attaque aux 1500. Et clairement, le fait de réenclencher cette phase de hausse après une phase de consolidation horizontale laisse du potentiel. Donc, effectivement, ça peut continuer à monter.
Cette question d'un auditeur, on reparlera de tech dans un instant, mais il faut aussi parfois savoir varier les plaisirs et beaucoup de particuliers sont investis dans cette valeur. Il s'appelle Léon Dumanil, il nous a écrit sur le Félix BFM Bourse, c'est FDJ United, Française des Jeux, donc on change vraiment d'univers. Pierre-David, comment voyez-vous la suite pour FDJ? Question de Léon Dumanil.
Ben, on est plutôt extrêmement positif sur la valeur. C'est une très belle valeur française aujourd'hui, hein, puisque aussi bien au niveau du rendement que de la revalorisation, elle est présente. Pourquoi? Ben déjà, elle a un quasi-monopole extrêmement solide sur le marché, donc elle a pas vraiment de concurrent, on va dire. Elle a un très beau dividende, donc voilà, c'est aussi attractif pour les clients. Elle se paye pas cher, en gros 9 fois. Après, voilà, les inquiétudes qu'on pourrait avoir, c'est des inquiétudes qui sont liées à son positionnement géographique, hein, donc en ce qui concerne la réglementation, la fiscalité, oui. Voilà, tout ça c'est pas en sa faveur, mais globalement sa valorisation aujourd'hui reste très raisonnable compte tenu des atouts qu'elle a, donc effectivement c'est une bonne idée d'y aller.
FDJ United, Julien.
La question sur FDJ, c'est est-ce qu'ils ont atteint un petit peu le fond de la piscine? Parce qu'en fait, depuis un an et demi, ils se sont un peu pris les sept plaies d'Égypte. Hein. En fait, Pierre David soulignait en fait la réglementation, mais que ce soit aux Pays-Bas, en Royaume-Uni ou en Roumanie et même en France, hein, il y a eu à la fois des alourdissements de la fiscalité et des contraintes réglementaires qui font, en fait, aux Pays-Bas notamment, en Angleterre, on a travaillé sur des mécanismes pour limiter en fait l'aspect addictif du jeu en ligne, en fait, ce qui a pesé sur eux. A priori, ça, on en vient à bout. Donc la question, en fait, au-delà de ça, ça va être la performance de, pas forcément la loterie en France, mais de ce qu'ils appellent la division online betting, donc tout ce qui est jeu en ligne, paris sportifs. Mmh. Et il suffirait, je pense, que cette division commence à progresser pour qu'en fait, on retrouve une dynamique positive. Ça a déjà été le cas lors de la dernière publication, on a commencé à dire, ça y est, là, ça commence un peu à revenir, même si, de mémoire, ils ont abaissé leur perspective. Hein,
Ouais,
donc, moi, je partagerais plutôt l'avis de Pierre David. Maintenant, c'est un titre qui a eu un parcours assez chaotique, on ne va pas se mentir.
Tout à l'heure, dans Valeurs Ajoutées, nos experts de Gay-Lussac Gestion nous ont aussi présenté une autre valeur, alors italienne. Valeur italienne dans la joaillerie, une pépite dont on n'avait jamais parlé encore dans BFM Bourse. On l'a découverte, cette société italienne qui fabrique des bijoux en or avec bracelets extensibles. En 10 ans, le résultat net a fait x10. Très simple. Alors, pour retrouver cette valeur, l'avis et les arguments de Gay-Lussac Gestion, retrouvez nos replays. C'est dans cette séquence valeur ajoutée qu'on vous propose quotidiennement. Elle est en ligne, cette séquence, ça y est, sur notre application BFM Business. Ouais, un acteur de la joaillerie qui a fait x10 sur son résultat net en 10 ans, dont on n'avait encore jamais parlé. Un acteur italien. Ça fait plaisir quand même. On n'est jamais au bout de nos découvertes sur la richesse des entreprises européennes. Voilà. Et italiennes, hein. On les admire quand même beaucoup, les Italiens, pour leur tissu de petites et moyennes entreprises. Là, il y en a une en bourse qui cartonne également. Air France KLM, Barclays, abaisse son opinion sur Air France. Le titre perd 1,2% ce soir. Ouais. Le titre gagnait sur un mois près de 20%, là, moins 1,2 ce soir. La sanction est pas trop sévère, manifestement, Pierre-David, ça va.
Voilà, le groupe en 2025 avait publié les meilleurs résultats de son histoire, hein, un résultat opérationnel de plus de 2 milliards d'euros, 100 millions de passagers transportés, une réduction de l'endettement, donc 2025 avait été une très belle année, avec un nouveau positionnement de Air France, hein, la montée en gamme des cabines premium, le développement de Transavia, donc on paye un peu ça aujourd'hui, mais nous on pense que sur la valorisation d'aujourd'hui, sans faire fi de tous les risques, hein, qui sont liés évidemment au conflit au Moyen-Orient, le prix du pétrole qui est évidemment un vrai problème, on pense que assez court on peut jouer, mais plutôt sur du court terme. Voilà, c'est plus pour faire du trading qu'un positionnement long terme.
L'argument de Barclays, c'est attention, vous avez gagné Air France KLM des parts de marché avec le conflit au Moyen-Orient sur les compagnies du Golfe qui ont du mal, voilà, les compagnies européennes en profitent, ça va pas durer.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le conflit au Moyen-Orient? Les compagnies du Golfe en fait ont dû réduire leur capacité, c'est-à-dire proposer moins de vols vers l'Asie et l'Afrique. Cette demande qui existe, elle a dû se reporter sur certains groupes, notamment Lufthansa et Air France KLM. Ce qui fait que quand vous regardez en fait les dernières données d'Air France KLM qui ont été partagées au marché, notamment en avril et en mars, si je dis pas de bêtises, il y avait un bond de la recette unitaire par le chiffre d'affaires, en gros le revenu par siège kilomètre offert, par avion, quoi. Je caricature. Mais ce que Barclays vous dit, c'est que ça, en fait, c'est un effet d'aubaine qui n'a pas vocation à durer. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que vous dites, c'est que comme vous le dites, Guillaume, en fait, les compagnies du Golfe, selon Barclays, elles vont faire une offensive marketing pour reconquérir fait ces parts de marché temporairement perdues. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, ce windfall, c'est comme ça qu'ils disent, et un effet d'aubaine, va s'estomper.
On va monter encore plus haut qu'Air France KLM, là. On va garder l'espace. Et SpaceX, dans une semaine, on suivra les cotations SpaceX en direct. Ce sera normalement à 99,9% vendredi prochain, l'introduction en bourse. Est-ce qu'il faudra y aller ou pas sur SpaceX? Vous avez deux avis divergents, là. Vous irez ou pas? Qui veut se lancer en premier? Non, je dirais Julien, tiens. Julien, parce qu'il a envie d'y aller sur SpaceX.
SpaceX, on achète le rêve, si vous voulez. On achète, en fait, quelque chose qui, en fait, ne relève plus du réel, en fait. Et quand vous regardez, ça, c'est un papier qu'on a sorti aujourd'hui, beaucoup de banques, alors des banques conseils, donc, dont on peut penser qu'elles sont légèrement jugées parties, voient, en fait, des chiffres astronomiques. Moi, j'ai juste cité, en fait, Evercore IC. Pourquoi? Parce que Evercore IC, a priori, ne participe pas à l'introduction de SpaceX. Donc, ils sont plus, et eux, ils vous disent, en fait, qu'à l'horizon 2031, le chiffre d'affaires, il y passerait les 1000 milliards de dollars. Donc, dans 5 ans, 6 ans, on serait à plus de 1000 milliards de dollars contre 18 milliards l'année dernière. Si on prend en fait cette base, effectivement qu'il faut acheter cette action parce que à ce moment-là, on prend quelque chose qui est décuplé. Et c'est vrai que l'expérience de Tesla, c'était 90 millions de dollars de revenus à peu près en 2010. Aujourd'hui, c'est 90 milliards. Donc une multiplication par 100 en 15 ans. sur un horizon plus long, certes, mais ça donne à réfléchir. Donc, par ailleurs, il y a un dernier point sur lequel on peut dire, on peut défendre l'argument en faveur d'un achat d'une action, c'est simplement l'effet, le train qui monte.
Oui.
Les gens, ils achètent parce qu'on achète. Ouais. Et la vérité, c'est que, ça c'est Morningstar qui vous dit ça, c'est que il y a tellement de banques qui vont acheter l'action pour soutenir, il y a certains fonds indiciels qui vont venir, que forcément il y aura des co-acheteurs. Donc, voilà.
Oui, oui. Et avec les ETF, la Valo compte beaucoup moins qu'avant. Pierre-David, vous resterez néanmoins à l'écart, hein, les arguments.
Alors, nous, on reste à l'écart dans un premier temps, tout simplement parce qu'on trouve que la valorisation est bien trop élevée. Hein, donc, c'est l'équivalent de, en gros, 90 fois son chiffre d'affaires. Donc, voilà. Donc, c'est évidemment...
Quand Amazon s'était introduit à 3 fois son chiffre d'affaires.
Donc, pour nous, la Valo est extrêmement élevée. Certes, hein, comme l'a dit Julien, il y a un très fort potentiel. Mais nous, on pense qu'il y a quand même des problèmes, notamment de gouvernance, hein, puisque c'est simplement contrôlé par Elon Musk. Bon, voilà, on peut prendre ça. L'exécution, la valorisation repose simplement sur le succès futur d'un marché, d'une infrastructure spatiale et de marchés qui sont pas totalement existants aujourd'hui, encore en tout cas à grande échelle. Donc nous, notre réflexe, c'est de voir comment ça se passe. Et puis après une introduction qui sera certainement très bonne, s'il y a un vrai retour de ce positionner pour du très long terme.
Mmh. Merci. Oui, c'est peut-être sur la deuxième vague qu'il y aura, voilà. Quand ça rebaissera.
Oui, la question, c'est est-ce que vous jouez la première semaine, le premier mois, la première année, la décennie ou 100 ans.
Ouais. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Très intéressant. Pierre-David Quenu, GSD Gestion, et Julien Marion, BFMBourse.com. L'article est disponible dans un instant. Mathieu Jolivet, les experts sans frontières. On vous souhaite une bonne soirée. Le CAC ce soir perd 0,3% en clôture.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.